Bonjour, bon après-midi ou bonsoir à tous et bienvenue dans le podcast de La Niche Aventure. Je suis Claire et je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode du podcast. Dans la vie, je suis éducatrice comportementaliste canin et créatrice de contenu sur Internet et ma mission, c'est d'aider un maximum de monde à comprendre son chien. Toutes les deux semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées autour des divers sujets du monde canin. Mes invités viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'ils ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Juste avant de lancer cet épisode, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à me soutenir financièrement sur Tipeee si vous le souhaitez, ou plus simplement à vous abonner et à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission dans votre appli de podcast préférée. Votre soutien m'aide énormément à faire connaître mon travail au plus grand nombre et je vous en remercie. Pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter en barre d'infos de cet épisode. Et je suis ravie de vous partager aujourd'hui ma conversation avec Camilla Richard. Camilla est consultante en comportement canin pour Camille Dogs, diplômée de la Karen Prieur Academy. Dans cette discussion, elle nous raconte son parcours avec Bella et comment les difficultés qu'elle a rencontrées avec elle l'ont finalement amenée à devenir l'une des meilleures professionnelles de l'entraînement du chien qui m'a été donnée de côtoyer. Des bases de l'apprentissage aux erreurs à éviter, en passant par l'apprentissage sans erreur et l'importance d'oser se lancer, vous saurez tout, ou presque, de l'entraînement du chien. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Camilla. Salut Camilla!
Ça va Claire?
Ça va bien et toi?
Ça va bien.
Trop cool. Je suis trop contente de t'accueillir sur La Niche. Pour cet épisode dont on parle depuis méga longtemps,
yes. On
prend enfin le temps de faire. Ça va yes. être chouette.
Oui.
On commence par les présentations. Qui bah es-tu, oui. Camilla ?
Je m'appelle Camilla Richard. Je suis consultante en comportement canin chez Camille Dogs Éducation Canine. Je travaille à Lyon. Je suis certifiée de l'académie de Karen Prieur. Et aujourd'hui, je travaille surtout avec l'accompagnement en chiot et la rééducation. J'ai fait des ateliers particuliers et professionnels et aussi des cours collectifs. À Lyon.
Cool, trop bien. T'as un chien, je crois, qui s'appelle Bella, je crois.
Oui.
Je suis un peu sûre quand même.
Oui, je la montre beaucoup sous mes os. Oui,
est-ce que tu peux nous en parler du coup?
Yes, j'ai partagé ma vie avec Bella. C'est une Golden Retriever de 3 ans. Bella, elle est... Qu'est-ce qu'elle est, Bella?
Elle est formidable.
Elle est formidable. Bella, c'est une chienne que... Elle vient d'un élevage qu'à l'époque, je ne connaissais pas forcément très bien. Et à l'âge de 8 mois, elle a eu une expérience pas forcément... c'était pas très positive. Elle a eu une parvovirose où elle était hospitalisée. Mm. Ce qui était vraiment traumatisante pour elle. Et à partir de ça, elle a commencé à déclencher des difficultés au contact. D'abord avec les vétérinaires. Donc, tout ce qui était soins était très compliqué avec elle. Et elle a commencé à montrer des comportements carrément agressifs au début à la maison, quand on lui tendait la main pour la caresser. Et en fait, on a beaucoup travaillé. C'était une période assez difficile, mais ça m'a appris beaucoup de choses. Parce que Bella, elle a un chien qui mord, que mord son propriétaire, gardien, bref. C'est difficile émotionnellement. Et en étant éduque, je trouve que des fois, on se met beaucoup la pression quand on n'y arrive pas.
Ouais.
Et en fait, c'était une étape qui m'a beaucoup appris, qui était dure. Mais aujourd'hui, après, là, on travaille depuis 3 ans presque. Elle va avoir 4 ans, en fait. Là, ça va beaucoup mieux. Je fais toujours attention. Elle a son petit canicode. Je fais de la pub. Et en fait, ça marche super bien. J'ai appris aussi à mieux communiquer avec les gens pour stopper carrément les caresses un peu surprises. J'ai beaucoup appris à m'imposer aussi avec certaines personnes que des fois on a besoin, et même avec certains vétérinaires qui à la fois c'est juste ils n'ont pas forcément l'habitude qu'un golden fasse ce genre de comportement, même s'ils devaient faire attention tout le temps. Et donc voilà, aujourd'hui ça va beaucoup mieux et je peux dire qu'elle, moi et elle, on a beaucoup de chance.
Ouais, ouais. Oui, puis vous avez beaucoup travaillé, enfin, on va en reparler, ça a été un peu la base de toute ta formation aussi, Bella.
Oui, carrément.
Avant de venir un peu sur ton parcours, j'ai une question que je pose à tous les invités. C'était quoi ton expérience avec les animaux avant d'avoir Bella? Est-ce que tu as toujours, et notamment avec les chiens, est-ce que tu as toujours grandi entouré de chiens?
En fait, pas du tout. Je viens du Brésil. Et oui, j'ai grandi avec des chiens, avec une éducation qui était en mode on a un chien à la maison et voilà. Après, c'était une autre époque. Donc oui, j'ai grandi avec des chiens. Moi, j'ai vécu à la ferme avec ma grand-mère. Et donc, moi, j'ai enlevé les tiques des chiens de la ferme. Moi qui avais un milliard d'énormes tiques, je disais que je voulais être vétérinaire. Donc toute cette petite histoire. Et en fait, quand je suis partie, j'étais partie en Australie, donc gros voyage et tout. Et le chien était mis un peu de côté. Donc, c'est vraiment en arrivant en France que je me... En fait, Bella, elle m'a beaucoup aidée à aimer la France parce que j'ai eu beaucoup de difficultés d'adaptation.
Ouais.
C'est quand même très différent du Brésil et en France. La culture, elle est vraiment vachement différente. Et ça m'a beaucoup aidée d'avoir cette excuse de parler avec des inconnus parce que j'avais du mal à faire des amis. Même si, bon, au Brésil, on est très ouvert, on va discuter avec les gens. J'étais dans une culture où les gens, pas forcément, ils faisaient leur vie et voilà. Donc ben là, c'était un bon prétexte pour connaître les gens et commencer à aimer ma vie en France.
Okay.
Donc,
et comment est-ce qu'elle est arrivée dans ta vie du coup, Bella?
En fait, mon mari, il a un travail où il voyage beaucoup. Pas beaucoup, mais il fait des voyages où il part à l'étranger. Et en fait, il y avait un moment où je me sentais très seule. Et je me disais, on a une vie quand même assez stable, on pourrait avoir un chien maintenant. Et donc, j'ai décidé très vite, c'était vraiment impulsif, genre typique, mon comportement. Et j'ai trouvé un élevage qui n'était pas loin, pas vraiment top. Mais bon, à l'époque, je ne savais pas trop.
Ouais.
Et je voulais un chien, et voilà. Mais quand même, j'ai toujours su que, bon, ça allait prendre du temps. Je savais le travail qui ne s'était pas aussi quand même... non réfléchi. Et Alex, il n'était pas vraiment pour, mais il comprenait que j'avais besoin de compagnies, en gros.
Ouais, ouais.
D'avoir quelque chose qui me fasse aimer plus la France. Et donc, voilà, ça s'est passé comme ça. On a trouvé l'élevage et on a pris Bella.
Oui, puis en plus, tu as grandi entourée d'animaux. Donc, j'imagine que te retrouver dans une autre culture, sans animaux et un peu seule, ça a dû effectivement jouer...
Ouais, carrément. Ouais, carrément.
OK.
Et ouais... Et j'ai quand même une grande famille au Brésil, donc pour moi, ça, même si j'aime bien ma solitude et ma propre compagnie, j'avais besoin d'avoir... je voulais un chien.
Ouais, ok. Et du coup, professionnellement, comment ça s'est passé pour toi? Donc tu nous as dit, petite, tu rêvais d'être vétérinaire comme plein de petites filles. et puis après, tu as un peu voyagé, Bella est arrivée. Et qu'est-ce qui a fait déclic? Qu'est-ce que tu faisais avant? Et qu'est-ce qui a fait déclic pour devenir éducateur canin?
En fait, j'ai jamais pensé à être éducateur canin, parce que je trouvais que... En fait, j'avais jamais pensé à ce métier-là, qu'on puisse gagner de l'argent en faisant ce genre de travail. Pour moi, c'était genre, OK, ça marche. Mais j'avais jamais même pas pensé.
Juste une question par rapport à ça. Est-ce que le métier d'éducateur canin au Brésil, c'est un truc qui existe comme en France? C'est quoi un peu le...
Ça existe.
Ouais.
Et c'est très développé d'ailleurs. Il y a beaucoup de chiens au Brésil.
Ouais.
C'est très luxe quand même. Donc peut-être que ça a changé. Hein. Je suis partie du Brésil il y a longtemps. Même si j'y vais là-bas, je ne suis plus dans la même
culture. Oui, c'est plus ton pays de...
Voilà. Ouais. Donc en discutant avec certaines personnes que je connais de là-bas, parce que en fait, j'ai suivi aussi une formation pour m'actualiser un peu sur ce qu'ils faisaient là-bas. Et donc du coup... C'est pareil, mais ça reste quand même un très luxe parce qu'au Brésil, on travaille beaucoup, vu qu'on a un moyen de vie qui est inférieur. Les gens, ils travaillent beaucoup. Donc, le métier d'éducateur, soit tu travailles pour des clubs, choses privées, soit tu travailles carrément avec le service où je propose aussi. C'est un service où toi, tu entraînes le chien et après, tu transfères toutes les informations au propriétaire.
Okay.
Donc, il y a beaucoup de ça, beaucoup. Et c'est souvent des personnes
qui ont de l'argent.
Qui ont de l'argent et qui n'ont pas le temps, mais qui veulent un chien.
OK.
Qui a plus ou moins toutes les l'éducation un peu base.
Donc du coup c'était effectivement c'était pas forcément un métier commun. J'imagine comme en France il y a 10-15 ans.
Je pense que c'est développé plus rapidement qu'en France parce que je me rappelle d'être en Australie et déjà connaître beaucoup d'amis que faisaient du dog walker et j'imagine que ça allait un peu ensemble. Mmh. Il y a beaucoup de le marché du chien au Brésil, Pets, il est très 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 développé.
Ok.
Genre vraiment, hein, tu trouves des animaleries dans tous les coins et il y a plein de trucs pour chiens. Après, ça va dans les deux sens. C'est très, il y a plein de choses, mais en même temps, ça, des fois, c'est un peu trop, too much.
Ok.
Mais bon, c'est développé, hein. C'est très développé.
Okay.
Et par rapport à ta question sur comment je suis arrivée sur ce métier, en fait, quand j'ai pris Bella, je savais que je voulais bien faire, je savais que je connaissais rien et que je voulais être aidée dès le début. Je connaissais un peu, hein, mais c'était un peu l'histoire de l'éducation ancienne. Et en fait, j'ai discuté avec une éduque au Brésil, parce que mon français à l'époque, c'était pas ouf. Et en fait, elle a dit, bon, on fait à distance, et comme ça, on se prépare pour l'arrivée de Bella, on fait les premières apprentissages. Okay. C'était une très bonne école d'éducation canine au Brésil. Et en fait, c'était elle, en voyant comment je me débrouillais un peu avec Bella, elle m'a dit, pourquoi tu fais pas ce métier? Et moi, je fais, mais j'ai jamais pensé. En fait, depuis que je suis partie du Brésil, j'ai beaucoup fait de la restauration.
Ouais.
J'étais gérante d'un resto. Après, j'étais manager d'un resto en France aussi. Et j'étais un peu perdue dans mon... Parce que bon, la restauration, c'est très bien. Mais je ne me voyais pas forcément à faire ça toute ma vie. Mmh. Et au Brésil, j'avais fait droit. Donc, les études de droit. Donc,
d'accord, ok.
C'est assez...
Je savais pas que tu avais fait droit.
Bon, regarde. Ça n'a rien à voir, mais bon.
Ouais, bah, moi aussi, j'ai fait ça.
Mais toi, ça me dirait plus.
C'est vrai.
Et donc, du coup, j'étais un peu perdue. Je voulais faire une reconversion. Je ne voulais plus être manager d'un resto, surtout restauration rapide. Je ne voulais plus.
Ouais.
Et donc, c'était un peu pile au même moment. Et je me suis renseignée au début pour faire Brésil. Trop compliqué et bon, pourquoi faire au Brésil?
Oui, alors
et j'ai commencé à carrément, c'était plus pour la langue parce que je parlais pas très bien français.
Ouais.
Et donc, je commençais à carrément chercher en France et c'est là où j'ai vraiment vu une possibilité de faire mon métier. Et en fait, je suis tombée amoureuse de... J'ai quand même un style d'éducation qui n'a jamais été, on va dire, sévère et ni...
Oui.
Mais dans ma tête, je pensais que c'était comme ça, en fait, qu'on faisait.
Ouais.
Qu'un chien, tu dis « Ah, tu !» Et bon, c'était pas méchant, hein, mais c'est comme tu voyais tes parents faire.
Bien sûr, ouais.
C'est comme... Et c'est pour ça que des fois, je suis plus dans la bienveillance avec mes clients parce qu'à la fois... Les gens, ils connaissent pas une autre chose. C'est la façon qu'ils pensent que ça se fait.
Ouais.
Et je me mets à leur place et je me rappelle de moi en train de Bella qui avait 2 mois ou 3 mois et moi je suis là. Ah, si la pauvre. Et voilà, donc c'est comme ça que je suis arrivée dans le métier d'éducation canine, d'éducateur canin.
Ok, trop cool. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ton parcours de formation?
Ouf,
ok. Ultra long.
Non, ultra long. On peut ouvrir
ton CV.
J'ai commencé par une petite formation tout au début qui m'a donné quand même une bonne base et j'avais fait canid élite à l'époque, que c'était un peu mélangé avec nature de chien. Je ne me sentais pas du tout prête, mais ça m'a permis de donner de rentrer dans ce
un
monde-là.
Début,
ouais. Du coup, je commençais à faire plein de petites formations. J'aimais beaucoup le travail, vu que je parle anglais, ça me permet aussi d'avoir accès à des formations un peu plus, on va dire, actuelles et tout ça. J'ai rien contre les formations en français, hein. C'est juste...
Ça manque un peu de...
C'est juste que
ça manque un peu de choix, quoi.
Ouais. Voilà, il y avait sur certains sujets, tu trouvais pas forcément le contenu. Et donc, je suis allée chercher plus vers Chirag Patel, Michael Chicacho, que j'aime beaucoup. J'ai... Qui d'autre que Susan Friedman, j'ai suivi sa formation de LLA, qui est très bien, honnêtement, si tu parles anglais... Ou même si tu as un anglais que tu arrives à te débrouiller, c'est une formation qui est géniale. Elle te permet d'avoir une compréhension du comportement Moi, ça m'a... Il y a Camilla avant et Camilla après cette formation, ça m'a donné. Maintenant, je suis capable de prendre un plan d'entraînement et choisir n'importe quel comportement et le créer. Mmh. Avant, j'étais un peu dans cette histoire, comment je pourrais mettre en place, tu sais, les petites recettes. Sur certains comportements, t'as envie d'avoir des idées. Et aujourd'hui, j'avoue que ça m'a beaucoup aidé cette formation. Mouzo Plus, c'est génial comme plateforme. On trouve beaucoup, j'ai fait pas mal de quelques formations là-dessus aussi. Quoi d'autre chose que j'ai fait? Du coup, j'ai suivi la KPA-CTP, qui c'est la formation professionnelle de Karen Prior. Il y a beaucoup de formations sur leur site, mais moi, j'ai suivi la professionnelle où je suis allée en Angleterre pour la faire. C'était l'aventure du sexe.
Ça a duré longtemps.
Et surtout, j'allais là-bas, c'était en anglais, même si, bon, j'ai vécu en Australie, j'ai un anglais qui est OK. Quand tu vis déjà dans un pays où on ne parle pas anglais, ton anglais, il reste un peu, comme tu dis, c'est le fer quand il est...
Un peu brut, enfin un peu, non.
Ouais, il n'est pas très top, hein. Ça te manque un peu des mots et tout. J'arrivais là-bas, il disait « good morning », et moi j'étais là « bonjour ». Donc c'était un bon... Ça coûtait très cher, tous les voyages. On faisait 7 heures de route pour aller jusqu'à New Forest pour faire les workshops. C'était un peu stressant pour Bella parce que c'était une époque où elle allait pas très bien. En fait, j'ai commencé la formation et elle a commencé à déclencher des comportements un peu... Elle avait beaucoup grossi parce qu'au début, on a pensé qu'elle avait des soucis de thyroïde. Elle était sur des médocs où elle a pris beaucoup de poids. Bref. Et donc, il y avait beaucoup de choses en même temps.
C'était une grosse période, hein.
Que c'était pas très simple, mais ça s'est bien passé. Moi, j'ai pas eu du premier coup. C'était difficile, le test final. J'ai fait une crise d'angoisse. J'étais pas prête. En fait, j'ai pleuré, j'étais mal et tout, parce que bon, ça... Tout le voyage, l'argent que tu mets sur le truc. Mais j'ai pas eu du premier coup, et tant mieux. Parce qu'en fait, ça m'a permis de revoir toutes mes erreurs, d'apprendre. Et c'était top parce que la deuxième fois, j'y suis allée à fond. À partir du moment où ils m'ont dit « tu peux le faire » parce qu'il fallait attendre 3 mois ou quelque chose comme ça, je me suis mis direct « je vais le faire » et comme ça, c'est check et c'est bon, je termine. Et en fait, ça s'est super bien passé. J'ai appris beaucoup. J'ai eu une collègue à moi qui m'a beaucoup aidée en échange, une collègue de là-bas qui avait eu du premier coup. Ouais. Parce que j'étais quand même la personne qui avait moins d'expérience entre mes collègues.
D'accord.
Donc, y a quand même pas mal de pression là-dessus. Ouais, ouais. J'étais la plus jeune aussi. Et non, c'était une super expérience. J'ai adoré cette formation. Ça m'a vraiment changé mon niveau de compréhension sur plein de choses, surtout le training, parce que c'est très poussé au niveau training. On apprend vraiment tous les paramètres. C'est cool. Et voilà. Donc aujourd'hui, j'ai fait cette formation. Après, j'ai suivi plein de petites formations aujourd'hui pour un peu, à chaque fois que je m'intéresse sur des sujets. J'aime trop la plateforme Behavior Vets. C'est trop bien. Ouais. C'est en anglais. Mais ils ont des contenus qui sont géniaux. La plateforme de Grisha, le site. Et actuellement, je commençais une formation sur l'anxiété de séparation parce que c'est un sujet que j'aimerais m'améliorer là-dessus et comprendre un peu mieux. Et donc, je commençais pour ça. Je ne sais pas forcément si je vais tout de suite travailler avec, mais c'est quelque chose que j'aimerais savoir en plus.
Pour développer, ok.
C'est ça.
Trop cool.
Ouais. Et si jamais quelqu'un veut savoir un peu plus sur mon parcours, allez-y sur mon site.
Ouais, c'est tout détaillé.
Il faut que ça soit sur la version ordinateur parce que c'est un peu long et j'ai pas mis sous la version mobile.
C'est ça. Mais c'est super intéressant et je trouve que t'as un parcours de formation qui est vraiment hyper dense. C'est super cool, mais on voit que t'es un peu éternelle insatisfaite du niveau de connaissance que tu as, que tu cherches toujours plus.
C'est syndrome d'imposteur à vie. Hein. C'est pas que je cherche, c'est parce que tu te sens pas capable et du coup tu cherches. Ouais.
Mais au final, ça t'amène à faire des trucs qui sont quand même assez chouettes. Enfin, en tout cas, pour ce qui est de la carrière de Prior Academy, vous n'êtes pas une petite poignée là d'éducateurs à être, certifié par cette académie. Donc, c'est quand même chouette.
Ouais, très chouette.
Et c'est le tout début.
Je suis fière de moi là-dessus parce que c'était quelque chose que je me suis beaucoup donné Et en fait, je voulais un peu me prouver que j'étais capable. Mmh. Et je l'ai eu.
Yes, donc, c'était trop bien. Trop cool. Et du coup, tu nous as dit que ta formation KPA, ça t'avait beaucoup fait progresser, notamment sur la partie training, donc vraiment entraînement du chien.
Oui.
Et c'est vrai que c'est un... en tout cas, je trouve les formations françaises, elles manquent un peu de ça, je trouve, mmh, en tout cas, pour, de ce que j'ai pu en voir.
Oui.
Et du coup, on s'était dit que ça pouvait être intéressant de parler justement de l'entraînement et puis aussi de démystifier un peu, parce que c'est souvent ce que les gens viennent chercher quand ils parlent de « on va faire éduquer notre chien mmh. » ou « on va mmh. éduquer notre chien », c'est ouais. très basé sur le training, alors que souvent et beaucoup en éducation positive, on va beaucoup plus coacher, amener à la réflexion, déconstruire mmh. des mythes, etc. Mmh. Et peut-être des fois passer un peu à côté de la partie entraînement. Donc je trouve que c'est quand même intéressant de pouvoir replacer ça dans notre métier d'éducateur canin et aussi dans ce qu'on délivre comme niveau de pratique et, de, ouais, et d'entraînement vraiment pur et dur avec le chien,
oui.
Ce qu'on délivre à nos clients, quoi. Peut-être ce que j'aurais aimé savoir, c'est toi, dans ton approche aujourd'hui, étant donné que tu as été formée un peu sur toutes les différentes casquettes en fait, de tout ça, à la fois en entraînement, à la fois, on va dire, plutôt dans l'accompagnement humain mm-hmm. et dans la déconstruction avec l'humain, tu vois, dans la partie un peu coaching. Mm-hmm. C'est quoi ton approche, toi, aujourd'hui, de ton métier avec tes clients, le degré de pratique que tu proposes, le degré de coaching que tu proposes, ça se répartit comment un petit peu ? C'est quoi ta vision des choses là-dessus ?
Je rencontre mon client là où il est, en fait, où il est. Mmh. Et j'enlève un peu le côté jugement de tout ce qui est, je sais pas, la personne elle utilise un collier étrangleur, mmh. par exemple, ou la personne elle suit pas la même méthode, ou des choses comme ça. Et donc, j'ai beaucoup appris à prendre en considération le côté humain.
Ouais.
Parce qu'on travaille avec l'humain.
Ouais.
Oui, on veut le bien-être du chien, mais pour arriver là, il faut passer par l'humain.
Ouais.
Et j'ai beaucoup amélioré ma façon de traiter l'humain, le côté... et c'était ça aussi que je cherchais en faisant de la formation Tag Teach, par exemple, que c'est pour améliorer la communication, justement, avec l'humain.
Ouais.
Et de simplifier. Avec la Karen Pry, j'ai appris beaucoup à décortiquer tout ce qui est apprentissage
oui.
et de simplifier les choses pour les gens, de ne pas m'attendre les mêmes objectifs que moi, je vais avoir pour moi avec mon client. Et ça m'a beaucoup aidée à être moi dans cette... il faut que je transforme la vie de la personne, il faut que je la... Ça m'a enlevé aussi beaucoup de poids sur mon dos mmh. et de faire ce que la personne, elle me demande et pas juste faire tout ce que moi, je souhaite pour leur chien parce ouais. que c'est quand même leur vie et leur objectif. Et ma façon aujourd'hui de travailler, c'est vraiment, je vais plus montrer que c'est possible de faire différemment que arriver et juger la personne parce qu'aujourd'hui, je ne crois pas du tout qu'on arrive à changer la façon que quelqu'un a... grandi et été éduqué juste parce que tu utilises je sais pas juste parce que tu dis que c'est bien en fait parce que la personne quand t'es en face d'elle elle va dire c'est qui toi en fait et donc ma façon aujourd'hui je préfère montrer la façon dont je travaille que c'est possible d'arriver avec d'autres moyens et de simplifier leur vie simplifier ouais. parce que j'avoue qu'à l'époque il y a un moment où je faisais des comptes rendus de je ne sais pas combien de pages. Merci. Hein. Aujourd'hui, je simplifie et je vois beaucoup plus de... C'est plus efficace ouais, avec mes clients. Ouais,
ok. Ouais. Du coup, si peut-être pour rendre plus concret de ce que je comprends et pour reformuler un peu ce que tu dis, si on t'appelle pour une problématique, je ne sais pas moi, mon chien aboie quand il se passe ça, mm-hmm. Tu ne vas pas essayer de changer la vision de la personne sur... le comportement, mais tu vas plutôt te dire « Ok, vous en êtes là, donc il faut vous aider à faire en sorte que ce comportement apparaisse ou apparaisse autrement, mm-hmm. n'apparaisse mm-hmm. plus ou apparaisse autrement. Oui. » Et donc, tu te focalises sur le comportement du chien et comment on va moduler ça
oui.
avec fait, l'humain en le rendant le plus simple possible pour qu'il soit acteur du comportement de son chien.
En fait, je vais chercher dans ma petite boîte
ouais.
quelles sont mes façons que je pourrais... à la fois régler le problème du bon mon chien aboie quand il sort de moments comme ça,
ouais.
Et aussi améliorer l'environnement, le bien-être et tout ça, mais sans forcément laisser ça clair.
Ouais.
Parce que des fois, je pense qu'on va trop expliquer et pour, mmh. pour la personne, ça ne parle pas forcément.
Ouais. Ouais.
Et aujourd'hui, j'aime beaucoup travailler par phase. Donc, pour arriver à la troisième phase, il faut d'abord qu'on fasse la première.
Mmh.
Et en fait, quand on fait comme ça, là, j'ai l'impression que la personne, elle voit une continuité et ça l'oblige un peu à faire la première parce que pour arriver dans la deuxième, il a la première.
Mmh.
Et donc, ça met moins de, on va dire, moins d'attente sur... moi aussi, moins d'attente sur la, la... Ça met moins en difficulté la personne parce ouais. que c'est étape par étape.
Ouais.
En fait, je prends l'humain comme si c'était un chien.
Ouais, c'est ça, c'est ça.
C'est un peu... Et j'ai vu beaucoup plus de... efficacité là-dessus, les gens s'amusent plus, ils aiment le, l'accompagnement, ils s'amusent à venir dans des séances, et j'ai moins de personnes qui, au bout d'un moment, disparaissent, tu sais, on a tous, ouais, je pense, certaines sûr. Personnes qui perdent la motivation de le faire, et voilà, donc c'est comme ça que j'essaie de travailler aujourd'hui.
Ok, ok. Oui, c'est mettre, faire passer l'humain en pratique,
oui.
Assez rapidement,
oui.
et que ce soit eux mmh. qui fassent, donc ton boulot, c'est vraiment de leur indiquer comment apprendre à leur chien, quoi.
Après, ça dépend beaucoup de la situation. Sur ouais. certains moments, je vais montrer beaucoup parce mm-hmm. que, bon, c'est juste plus simple des fois quand tu montres. Et... Mais la base, vraiment, c'est vraiment je vais essayer de trouver une façon où ça... Je vais arriver à un objectif pour l'environnement, bien-être, choix et tout ça pour le chien... Et que ça soit simple pour l'humain.
Ouais, que ça soit intégré dans son quotidien.
Voilà, que ça soit intégré dans son quotidien. Si aller à la boulangerie avec son chien, ça le fait sortir son chien, très bien, va à la boulangerie avec son chien.
Ouais.
Parce qu'à ce moment-là, tu intègres ton chien dans ta routine. Je sais que ça fait partie de ton plaisir aussi de faire ça. Et ton chien, il a une balade.
Ouais.
Donc,
ouais.
C'est un peu... On essaie de faire plaisir le, ouais, voilà, ouais. les deux, l'équipe.
Entre les besoins du chien et les plaisirs de l'humain. Quoi.
C'est ça.
Ok. Trop cool. Du coup, toujours sur la partie entraînement, toi, sur, notamment sur Instagram, on te voit beaucoup travailler avec Bella, faire plein de trucs. Surtout pour ta formation, tu avais beaucoup de comportements à lui apprendre, etc., etc. Donc, on t'a vu beaucoup travailler avec elle. Et aujourd'hui, souvent, moi, c'est souvent mon cas d'avoir des clients qui sont en demande en fait, de ça, de dire « mais qu'est-ce que je pourrais faire avec mon chien ?» Est-ce que tu aurais des conseils là-dessus, des choses à apporter ? Est-ce que c'est super bien de faire travailler son chien ? Est-ce qu'il faut le faire ? Est-ce qu'il faut le faire beaucoup tous les jours, mm-hmm. pas trop, est-ce que c'est important, pas important? Comment tu vois les choses là-dessus?
Honnêtement, je pense qu'il faut prendre du plaisir à faire les choses. C'est à partir du moment où ça devient, comment on dit, tu t'obliges à le faire parce que tu penses qu'il va être bien pour ton chien, c'est plus bien.
Ouais.
Parce que commence par déjà faire des activités ensemble qui vous faites plaisir, tester des choses... Et si vous vous amusez là-dessus, honnêtement, pourquoi pas, hein? C'est... Je pense qu'il y a vraiment une ligne entre qu'est-ce qui est une obligation et qu'est-ce que c'est du plaisir. À partir du moment où le training, c'est du plaisir, honnêtement, si ton chien kiffe faire des exercices de tricks, de tout ça, fais avec lui. Moi, j'adore faire des petits exos avec Bella, mais je sais qu'elle adore son canapé. Donc, j'essaie de faire un peu... À la fois, c'est un peu pour moi aussi de m'entraîner sur certaines choses. Mais si je vois qu'elle est en mode non, je ne vais pas, c'est... Je pense qu'il faut juste tester des choses.
Ouais.
Et si ça fonctionne bien pour le duo, faites-le.
Carrément. Trop cool. Et dans les entraînements, à quoi? Parce que c'est souvent une question qui revient beaucoup. Mais qu'est-ce qu'on fait, en fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vrai qu'il y a différentes façons de faire. Toi, par exemple, je sais que tu as vachement appris à Bella à participer aux tâches du quotidien, genre ramener des trucs, etc.
Ouais.
Je trouve ça trop cool.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous en parler un peu?
Oui. Moi, j'aime bien unir le côté la race
ouais.
avec ce qui, elle, était sélectionnée pour le faire et les choses que ça pourrait être marrant d'entraîner. Pour Bella, c'est un retriever, donc j'adore faire tout ce qui est rapport.
Ouais.
Et elle adore aussi. Je vois qu'elle kiffe. Ça dépend si c'est lourd. Hein. Si c'est lourd, elle dit non, je veux pas. Genre, mes courses, non merci. Donc, tout ce qui est jeu de rapport, j'adore faire. Sinon, honnêtement, si tu fais des... Même, moi, je suis pas contre si pour la personne, elle s'amuse à faire des assis couchés. Hein. C'est, je sais qu'il y a maintenant, il y a le assis. Honnêtement, pour certaines personnes, un assis, c'est un comportement qui peut carrément aider dans la vie quotidienne et éviter que son chien il saute sur tout le monde. Donc moi, je suis pas quelqu'un qui va créer des ça, je fais plus parce qu'avant on faisait ça et aujourd'hui c'est pas bien. Non. C'est, je pense qu'il faut relativiser un peu les choses et voir par rapport à la famille le qu'est-ce que ça les convient. Ouais, voilà. Ouais, ouais. Et, mais des petits jeux que je pourrais conseiller, honnêtement, tout ce qui est lié au, à en nature, c'est trop bien. Moi, j'aimerais tester tout ce qui est nose work avec Bella. Je sais qu'elle kiffe, mais je n'ai jamais pris le temps de trop investir là-dessus. Mais jeu de rapport, j'adore. Ouais. Parce que, en fait, ça amuse tout le monde. Ça amuse l'humain et ça amuse, genre, ma chienne qui amène mes boîtes de médicaments quand ça sonne mon alarme. C'est trop cool. Et ça fait un côté, tu vois, t'es en mode. Ouais,
c'est un peu classe.
Ouais, c'est un peu classe. Elle fait plus, hein. Elle le fait plus parce qu'on n'a pas trop insisté là-dessus. Mais c'est sympa. Ouais. Et d'ailleurs, c'est un atelier que j'ai envie de proposer à Lyon. C'est un atelier rapport et d'apprendre les gens à comment développer ce comportement parce que c'est pas très simple de faire apprendre le chien à prendre et pas lâcher,
garder
en bouche.
Ouais.
Donc, à part si c'est de la nourriture. Mais de garder un objet carrément, c'est pas simple. Moi, j'ai galéré un peu aussi.
Ouais.
Et non, mais tout ce qui est jeu de rapport, moi, c'est mon... J'adore.
Trop cool. Et tu le disais, c'est hyper cool parce que du coup, ça fait vraiment le lien entre la... Et je trouve que c'est ça finalement qui est hyper intéressant dans la partie entraînement ou en tout cas activité qu'on fait avec son chien. Qu'est-ce qu'on fait comme activité avec son chien ? Ça force aussi à se demander bah, pourquoi est-ce qu'il est fait notre chien en fait ? Quelle est son utilité entre guillemets de départ par rapport à sa race, à sa génétique ? Et je trouve que ça aide aussi l'humain à comprendre ce pourquoi il fait notre chien et qu'est-ce qui le motive, etc. etc. Et voilà. Moi, ça n'a rien à voir. Charlie, lui, son truc, c'est les tricks. Donc, on a fait beaucoup de tricks. Il adore ça. Ouais. Vraiment, il est super partant et il va vite te proposer des trucs. Il te montre un peu ce qu'il sait faire et tout.
Ah, c'est trop bien.
il aime trop. Ouais. Là où Siobhan, aucun intérêt. Tu vois, il sait à peine s'asseoir. On n'a pas poussé jusque-là. C'est ça. Mais je trouve ça vraiment chouette d'aller vraiment questionner OK, c'est quoi qui motive vraiment ton chien ? Qu'est-ce qui te fait plaisir de travailler et de trouver une activité comme ça ensemble. N'hésitez pas à en parler à vos éducateurs.
Bah oui.
D'aller explorer un peu les différentes disciplines, les différentes pratiques qu'on peut faire.
Même les jeux.
Les trucs très simples, en fait.
Les jeux. Ouais. À la fois, on est un peu bloqué dans cette histoire d'avoir toujours des récompenses.
Ouais.
Et même, on peut mettre en place de jeux sans forcément avoir des jouets présents. Il y a Amy Cook, que c'est une entraîneuse, qui a mis en place le Playway. Et c'est une façon où tu joues avec ton chien. En gros, tu vas utiliser ça pour de la thérapie.
Ouais.
Et ils ont vu beaucoup d'améliorations sur le comportement du chien à partir du moment où ils mettaient en place. C'est en fait l'humain, il va imiter un peu des comportements un peu de chien. Je résume très
rapidement.
Et c'est trop bien parce que ça t'apprend à beaucoup faire ce jeu de choix, de laisser le chien carrément venir demander si tu veux jouer. Mmh. Et c'est très sympa comme il faut se jeter un peu par terre, faire un peu le foufou, mais bon, on fait ça, hein, on a un chien, on fait ça. Et j'ai mis en place avec Bella et elle adorait. Et c'était drôle de voir qu'elle pouvait jouer avec moi comme elle jouait avec un chien.
Ouais.
C'est sympa.
Ok. Ah, trop cool. Trop bien. Je connaissais pas du tout.
Ouais.
Il y a un truc cool aussi quand on commence à faire des activités avec son chien, que ça soit des trucs très simples comme les tricks à la maison, s'entraîner, je sais pas moi, au medical training ou à faire des activités un peu plus poussées comme toi, les jeux de rapport, du mental training, des nose work, etc. etc. Je trouve que ce qui est très cool aussi, c'est que c'est aussi dans ces activités-là qu'on apprend un peu plus à lire notre chien, à comprendre ses signaux et qu'il y a en fait un vrai dialogue qui se met en place. J'en avais parlé dans l'épisode sur le medical training, sur les soins coopératifs que j'avais fait avec Iris d'ailleurs. À quel point moi ça m'avait... C'est ça que j'avais adoré en fait, c'était au tout début de ma formation, j'avais commencé ça avec Charlie, et c'est en fait ce dialogue qui s'est mis en place de « ok, là je suis ok pour les soins, là pas », et en fait je me suis dit « mais si je ne m'étais pas lancée dans cette activité, peu importe laquelle, hein, c'est juste dans cet entraînement en fait, dans cette dynamique d'entraînement en tout cas, d'apprentissage de comportement, bah, je serais passée complètement à côté de ce pan-là. » Et toi, du coup, tu as rencontré pas mal de soucis niveau consentement, enfin en tout cas, voilà, communication avec Bella. Et j'imagine que c'est ça aussi qui t'a un peu motivée. C'était quoi un peu ton parcours là-dessus ?
En fait, ça, le fait que bon, Bella, elle est arrivée jusqu'à la morsure par rapport au contact, et c'était carrément lié aux soins,
ouais.
Ça m'a beaucoup forcée à l'observer. En fait, parce que il y avait quand même une question de elle allait me mordre, donc ça m'a forcé à me renseigner beaucoup là-dessus, et j'ai fait plusieurs formations sur le langage corporel, et aussi moi je m'entraînais à la filmer, pendant ça. D'ailleurs, c'est quelque chose de très utile de filmer, parce que bon, on est des humains, hein. Sur le moment, même quand on a l'habitude, ça passe et tu vois pas forcément. Et
on voit pas notre propre comportement,
et ceux du chien, et tout ce qui se passe dans l'environnement. C'est dur, hein, de tout maîtriser, et donc quand tu filmes et tu vois après, ça te permet de t'améliorer, tout simplement. Et en fait, c'est ce que j'ai fait beaucoup pendant un moment, surtout pour ma sécurité et pour les gens qui interagissaient avec Bella. Et en fait, ça m'a énormément à justement mettre un dialogue en place avec elle, où ça m'a permis de la montrer qu'elle était en sécurité et que je n'allais pas
la forcer,
pousser, même s'il y a eu des moments où j'étais obligée, parce que Bella, elle, par exemple, elle se coinçait une fois un bout de bois entre les dents. Avec un chien qui fait de l'agressivité, qui peut carrément te mordre. Même un chien qui fait pas, hein, c'est un moment stressant, donc tu peux te faire mordre.
Bien sûr.
Moi, ça m'est arrivé d'avoir, pour ce genre de moment, j'ai acheté une gant. Je t'avais dit une fois, je pense, que c'est pour le sauvetage des chiens sauvages. Et en fait, j'ai utilisé deux fois déjà. Une parce qu'elle avait coincé ce bois dans la... Et là, tu fais quoi à ce moment-là? Il faut que tu l'enlèves. Et là, il n'y a pas de consentement. Hein. Tu fais ce que tu peux faire. Et en fait, il y avait un autre moment, elle avait mangé un truc par terre. Je pense que c'était des os, un truc comme ça. Non, je ne me rappelle pas forcément, mais je me rappelle d'utiliser deux fois. Et j'étais très contente de pouvoir avoir ça. Parce que ma chienne, elle nous mordait quand même assez, c'était sévère. Et donc, voilà, donc ça m'a apprendre à lire ces signaux, c'était hyper, extrêmement important. Et aujourd'hui, je dirais que c'est limite une priorité pour n'importe quel chien. C'est comme si tu as une relation avec quelqu'un qui tu n'es pas capable de le comprendre.
Ouais.
T'imagines, moi là, je parle portugais, je suis désolée que le podcast ne fonctionne pas. Hein. Donc, on n'arrive pas à connaître.
Ouais.
Et je me rappelle que même quand on a encore un peu de connaissances sur la langue, moi je me rappelle au début quand je commençais avec mon français, j'arrivais pas vraiment à montrer ma personnalité aux gens, parce que tu as pas les mots. Et donc ça prend un peu de temps, et je trouve que apprendre le langage de son chien, c'est indispensable. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je systématiquement avec mes élèves, c'est quelque chose que on travaille là-dessus. C'est priorité, surtout pour pouvoir comprendre ce qui se passe un peu mieux dans sa tête.
Ouais, carrément. OK. Il y a un truc en éducation positive, et ces dernières années, ça pop beaucoup, c'est la notion d'erreur, en fait, en entraînement. Parce que je pense que traditionnellement, et on a tous appris comme ça à l'école, etc., avec cette idée que c'est dans l'échec qu'on apprend et qu'on se relève des échecs pour apprendre et pour grandir, etc., etc. Et du coup, ça rentre un peu en contradiction avec ces méthodes positives où on va essayer de placer le chien en réussite, etc., etc. Donc, il y a pu y avoir un peu débat là-dessus. Et du coup, dès qu'on se confronte à l'entraînement, à l'activité avec son chien, à faire des apprentissages avec lui, bah forcément vient de qu'est-ce qu'on fait de ces échecs, est-ce qu'ils peuvent apparaître, est-ce qu'ils doivent apparaître, est-ce que c'est comme ça que le chien apprend, ou est-ce qu'il faut mieux les éviter. On parle d'errorless training pour les pros qui nous écoutent, ça leur parlera peut-être. C'est quoi un peu ta vision des choses là-dessus, et qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui, qu'est-ce que la science nous dit aujourd'hui de tout ça?
En fait,
c'est quoi ta vision des choses?
Déjà, ce que la science elle dit depuis longtemps, c'est qu'on n'a pas besoin de faire des erreurs pour apprendre. Ça va plutôt engendrer de la frustration, et ça peut avoir de l'agressivité par
en conséquence,
il peut avoir de l'agressivité. Et en fait, ce qu'on parle dans cette façon de travailler, c'est de faire un arrangement de l'environnement pour que on ajoute des difficultés petit à petit. Et donc, on va créer du renforcement sur un comportement et petit à petit on augmente les difficultés sans laisser le chien dans cet esprit de réfléchir. Tu sais, cette histoire de ah là il faut laisser le chien réfléchir, ça souvent ce qu'il fait c'est qu'il y a beaucoup de frustration parce que ça diminue ton taux de renforcement, c'est-à-dire le chien il gagne moins de réussite, il y a moins de réussite, on a plus de frustration, on a un comportement plus agressif et souvent ce qu'on va dire, ah ils comprennent pas, c'est mort, on va se frustrer nous aussi. Et donc il y a des façons d'aujourd'hui de faire et de préparer tes exercices pour qu'il n'y a que de la réussite.
Ouais.
Et ça fonctionne très bien. Après, je sais que c'est un peu plus technique et pour les particuliers, ça peut être un peu difficile des fois à mettre en place, mais c'est assez simple de le faire.
Ouais.
Et on voit souvent qu'il va avoir plus de facilité de la part du chien de compréhension. Et donc, c'est gagnant-gagnant. Après, ça va avec les personnes qui sont en face de toi. Des fois, ça, tu parles de ça, les gens, ils n'ont aucune idée. Donc, tu peux mettre en place certains apprentissages, pas forcément parler des hairless, mais juste créer ta séance de cette façon.
Bien sûr.
Donc, j'aime beaucoup travailler de cette façon parce que je vois le côté positif, mais je sais que ce n'est pas pour tout le monde.
Ouais.
Parce que certaines personnes, ça ne va pas être très clair.
Ouais. En fait, c'est ça, je trouve que l'enjeu en fait, là-dedans à laisser le chien un peu... en erreur, en tout cas réfléchir, c'est que finalement, en fait, la séance d'entraînement, elle devient plus aversive qu'autre chose, parce qu'elle déclenche des émotions qui ne sont pas forcément très positives, en fait, avec tout ça.
Et si ton taux de renforcement, il est bas, forcément, il y a moins de réussite, il y a moins d'amusement, il y a plus de frustration, il y a plus de, probablement, des comportements que tu ne veux pas.
Ouais. Et donc, plus de contraintes.
Plus de contraintes et plus de frustration de l'humain qui dit bon mon chien comprend pas
ou il est têtu il veut pas apprendre il sait très bien faire il a très bien compris mais il veut pas etc.
S'il y a une chose que j'ai appris avec KPA c'est que si ton chien ne fait pas ce que tu as organisé pour qu'il fasse c'est probablement parce que tu as mal organisé
qu'il a pas compris ce qu'on attendait
c'est ça donc t'as demandé trop
c'est ça
il n'était pas prêt
c'est vraiment un truc que j'essaie beaucoup d'expliquer à mes clients et c'est vrai que souvent il y a cette l'enjeu c'est vraiment de faire en sorte que le chien s'amuse et que ça reste quelque chose de positif pour lui mais que l'humain aussi voit son chien différemment et du coup passer par un truc plus facile même si au départ c'est trop facile et c'est souvent vu comme trop facile et augmenter la difficulté progressivement ça permet vraiment de voir son chien progresser aussi plutôt que de demander tout de suite un truc très très compliqué qui va pas forcément aboutir là-dessus je crois qu'on en a jamais parlé dans le podcast de cette règle des 3D là durée distance distraction est-ce que tu veux nous en parler un petit peu
je pourrais
expliquer un peu en fait l'idée c'est plutôt de comprendre comment est-ce qu'un exercice devient de plus en plus difficile et c'est pas notre demande en fait en tant que telle qui fait que la demande est plus ou moins difficile pour notre chien c'est plutôt cette règle des 3D qui fait que c'est difficile
en fait je parle pas forcément de règle de 3D je pense plus à qu'est-ce que tu veux que ton chien fasse et de la même façon où toi on va t'apprendre d'abord A, B, C et plus tard tu vas apprendre des choses plus difficiles. Mais ce que tu as eu besoin de ce A, B, C dans un premier temps, c'est la même chose pour ton chien.
Ouais.
Donc si tu veux qu'il comprenne qu'il ne faut pas qu'il aille voir tous les chiens dans la rue et qu'il devient fou quand il voit un chien, c'est probablement peut-être parce que tu n'as pas encore le montrer ce que tu veux qu'il fasse. À la maison, par exemple. Ah, mais à la maison, il n'y a pas le chien. Oui, à la maison, il n'y a pas le chien. Mais d'abord, est-ce que tu aimerais qu'il soit à côté de toi? Est-ce que tu aimerais qu'il te regarde? Est-ce que tu aimerais qu'il juste observe un chien de loin? Donc, dans un premier temps, on travaille ça. Et petit à petit, on arrive jusqu'à l'environnement de voir un chien en face. Donc, moi aussi, j'ai pas mal de difficultés à expliquer avec mes élèves. Parce que, c'est dur pour l'humain de dire, bon, mais là... J'ai pas la situation qui est difficile pour mon chien.
C'est ça.
Là, je suis à la maison.
Ouais.
Et c'est dur de comprendre qu'il y a cette construction de... d'abord, on demande un comportement. Après, on le met beaucoup de réussite sur ce comportement. Et petit à petit, on l'amène dans un environnement où ça va être plus un défi pour le chien.
Ouais.
Et...
En fait, c'est la solidité du comportement à la base et de du premier apprentissage qui va parler. Tu avais fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur le merci pour apprendre aux chiens à lâcher les choses. Et j'ai trouvé que c'était super chouette parce que ça montrait vraiment ce côté... en fait, là, il n'y a pas de raison. Et je crois que tu dis au moins 150 fois merci sur les 30 secondes de vidéo. Mais elle est super, cette vidéo, parce que vraiment, ça montre à quel point... c'est ça, en fait, qu'on attend. Et quand on vous dit commencer par vraiment le truc le plus basique tout au départ, ça semble facile parce que le chien y arrive une fois, deux fois, trois fois, mais on pense pas à le systématiser et à faire en sorte que ce mot ou cette demande avec ce comportement, ça soit systématique et ça soit très, 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 très répété. Donc, si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez la voir. Et de manière générale, allez consommer tout le contenu que crée Camilla, parce que c'est vraiment très, 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 très chouette, très inspirant.
Merci.
Mais donc, voilà. Donc, ouais, c'est cette notion de trop facile qui est très souvent très présente. Et je l'ai vu aussi pas mal sur l'Académie des chiots, dans les cours collectifs. Oui. Tu vois, ce truc de presque refuser de faire un exercice parce que c'est bon, c'est trop facile, mon chien y arrive. Mm-hmm. Sauf qu'en fait, on peut vraiment vite le faire.
Il a une construction. Avant de demander ton chien de répondre à son rappel en face d'un autre chien, il faut déjà que tu arrives à avoir son attention, qu'il te regarde au moins.
C'est ça.
Et on ne se rend pas compte que c'est important de décortiquer les choses et de moins demander, d'avoir beaucoup de réussite pour passer à la prochaine étape.
Mais ça, en fait, c'est intéressant parce que ça dit aussi vraiment, ça parle aussi de la vision que l'humain a sur son chien, en fait, au moment où il fait l'exercice, avec ce truc de « Ah, mon chien, il est un peu plus intelligent » ou « il comprend vite et donc on n'a pas besoin de passer par ces étapes faciles, etc. » Alors qu'en vérité, un chien, peu importe sa race, son âge, etc., il a besoin d'être accompagné dans son apprentissage et qu'on lui montre les choses, quoi.
Et je pense qu'il y a beaucoup d'attentes que des fois tu crées et en fait ça dépend quand le chien est en face de toi, ça dépend de comment les choses vont se passer. Et en fait il y a aussi le côté des pressions un peu sociales, genre je vois sur les cours collectifs des fois c'est un peu parce que t'as les gens autour, donc c'est pas très simple sur certains moments, mais voilà, c'est important de commencer par ce qui est simple dans un premier temps. Moi je dis toujours d'abord à la maison et petit à petit on passe les étapes et créer quelque chose progressif, parce que, et c'est pas parce que ça marche aujourd'hui que si tu arrêtes, moi je sais très bien que le merci que j'ai fait la vidéo, si je continue pas, ça fonctionne pas,
bien sûr.
Et ça va dépendre tellement de l'état de ton chien en fait sur le moment et la motivation à laquelle ton merci, il était aussi travaillé pour le merci, c'est pour le lâcher. Et donc ça va dépendre. Je pense que des fois on est un peu trop carré et c'est très nuancé, tout ce qui est entraînement, tout ce qui est réussite aussi. Donc ton chien il peut très bien faire les choses et juste un jour mal dormir et juste pas envie de t'écouter.
C'est ça. Et puis il y a ce truc d'entretien aussi où je pense qu'il y a, en tout cas dans la tête des gens, et moi je le vois vraiment chez mes clients, à partir du moment où un truc a été vu et a été réussi deux, trois fois, c'est bon, c'est acquis pour toujours, quoi. Alors
c'est
que non.
C'est un peu l'histoire du « Ah, mon chien, il me suit partout. Ouais, mais il a trois mois, mais attends un petit peu. Ouais. » Et ça va tout partir en cacahuète. Donc, il ne faut pas prendre les choses trop... C'est une construction, honnêtement. C'est une construction. Et si on arrête de le faire, forcément, on perd un peu en réussite. C'est normal.
Et ça sur tous les plans, surtout n'importe quel comportement, n'importe quel...
Tout ce qu'on fait, tu arrêtes de faire... Ok, à part du vélo...
Ok, le vélo, ça marche.
Ouais, le vélo, ça marche. Mais bon, t'as beaucoup fait quand t'étais petit, quand même. Il y a eu beaucoup
de... Voilà, c'est ça. Ok. Pour continuer un peu sur ce truc d'erreur, etc., j'avais envie de parler du fait d'oser. En tout cas, je sais que c'est un truc que j'ai beaucoup rencontré... Quand j'ai appris ou j'ai cerné un peu la théorie, tu vois, de « Ok, comment est-ce que j'allais pouvoir entraîner mon chien, etc. etc. » En fait, de ne pas trop me faire confiance tout de suite et du coup, dans le doute, je ne fais pas, tu vois. J'ai tellement peur de faire des erreurs, j'ai tellement peur de mal faire, que finalement, je ne fais pas. Alors que, et ça, ma dernière formation sur le chiot, où on avait des vidéos à faire, ça m'a beaucoup aidée en fait à sortir de ma zone de confort et à me dire ok, tant pis, je teste et puis juste je m'adapterai et je sortirai de ce truc. Je pense que c'est un truc que beaucoup de gens rencontrent en fait, ce truc de se dire oh là là, mais en fait il y a tellement de paramètres à prendre en compte, j'ai tellement peur de le louper que je fais pas et je reste un peu dans ma zone de confort. Je fais de la gestion, etc. Oui. Mais je passe pas en mode action, tu vois.
Oui.
Est-ce que c'est un truc qui t'est arrivé aussi?
Oui.
Est-ce que c'est un truc que tu rencontres?
En fait, le monde de la gestion,
ouais.
Surtout quand on a un chien qui fait de l'agressivité, par exemple,
ouais.
Envers les humains, dans le cas de Bella, c'est très confortable hein, de faire de la gestion,
ouais.
De passer sa vie à faire de la gestion, parce que bon, tu évites de passer ce côté difficile de mettre en situation.
D'inconfort et
d'inconfort
tout ça.
Ouais.
Éviter l'inconfort à tout prix.
Et en fait, ce qui m'a forcé un peu à passer, à franchir un peu le cap, c'était les voyages en Angleterre.
Ouais.
Parce qu'en fait, il y avait beaucoup plus de gens, l'endroit où j'étais pour la formation. Et les gens, vu qu'il y avait plus de chiens, j'avais l'impression qu'ils allaient plus facilement envers Bella. Plus qu'en France, j'ai trouvé. Et en fait, ça m'a obligée à mettre un signal, comme si le signal pour venir vers moi, c'était la personne qui s'approche.
Okay.
Et c'était dur pour moi parce que je disais, bon, il y a quand même un risque. Donc c'est
ouais, il faut le tenter quoi.
Ça m'a ouais. Mais vu que j'étais obligée à aller là-bas pour faire cette partie de pratique. À chaque fois en fait, je suis allée je sais pas 5 ou 6 fois et en fait à chaque fois je disais il faut que je me prépare pour ça parce que bon, il va y avoir des gens qui vont la caresser, qui vont pas forcément demander, il y avait beaucoup de monde dans la rue, c'était un peu touristique l'endroit où je faisais la formation. Et bon, un golden, c'est un chien que les gens ils approchent très facilement et ça c'était difficile pour Bella. Et en fait, du départ, j'étais en mode OK, je la désensibilise pas du tout, je la fais éviter. Et en fait, j'ai vu que pour la vie quotidienne, il fallait que je passe ce cap de « ici, quelqu'un la caresse ».
Qu'est-ce qui se passe ?
Qu'est-ce qui se passe ? Donc, ça m'a permis à vraiment de pousser un peu plus les choses, faire confiance au travail et à la fois de... Bon, il y a eu quand même des petits échecs, il n'y a jamais eu de morsures, mais il y avait des moments où elle était très tendue, c'était une situation difficile, mais ça m'a permis de voir que... Ok, elle montrait pas mal de signaux d'inconfort, mais souvent, elle me cherchait sur ce moment-là. Donc, on voyait qu'il y avait quand même du progrès. Et donc, voilà. Donc, pourquoi pas se faire confiance, se faire aider par un pro, c'est super important. Mais c'est important aussi de se dire, c'est pas grave si on a des échecs.
Ouais.
Parce qu'on est en train de tenter, on est en train de progresser. Et je suis désolée, mais l'avancement... on est dans une zone où on n'est pas très confortable souvent. Donc, je suis sûre que ton premier podcast n'était pas très confortable. Moi, aujourd'hui, c'est mon premier. Je ne suis pas confortable. Ça nous a pris un peu de temps pour le commencer. Mais tu sais que ça te permet de découvrir des choses, ouais. D'apprendre et de faire des améliorations là-dessus. Donc, je pense que ouais, le monde de la gestion, il est très bien. Mais je pense que des fois, on loupe de...
Ouais.
De pousser un petit peu et franchir le cap et voir que on peut très bien
ouais, c'est ça.
Avancer. Et bon, après, c'est l'envie des gens. Hein. Des fois, t'as juste pas envie et t'es très bien là où t'es.
C'est ça, mais il y a ce truc de... Effectivement, des fois, oser et on peut... C'est toujours aussi dans les sorties de zone de confort qu'on s'épate le plus, qu'on voit aussi de quoi notre chien il est finalement capable, qu'on prend confiance en nous, etc.
Ouais.
Enfin, il se passe aussi des belles choses
ouais.
dans ces moments-là.
Et, je pense
et
que
des fois, ça vaut le coup de le tenter, quoi.
Ouais. Et je pense que dans le monde de notre métier, il y a beaucoup de pression, surtout entre
ouais.
pros.
Ouais. Zéro déclenchement.
Zéro déclenchement
ouais.
de... Ah non, ton chien il frustre, signaux d'apaisement. Et en fait, les choses sont beaucoup prises à cœur.
Ouais.
Et en fait, ça se passe pas comme ça. Le progrès, même quand tu es un très bon professionnel, pour que tu puisses mettre en place les choses et tu vas tester certaines choses qui vont être un échec et que probablement ça ne va pas être montré parce qu'on montre souvent le
ouais.
résultat final.
Ouais.
Mais le progrès, il est comme ça. Hein. Ça fait partie de l'apprentissage, elle est comme ça.
Ouais.
Et donc, je vois, dans le métier d'éducateur canin, aujourd'hui surtout le côté bienveillant, il y a une pression entre professionnels qui, des fois, est anxiogène.
Énormément.
Que tu bloques. Et genre les réseaux, par exemple. Et ça bloque des gens qui peuvent être des très bons professionnels à vraiment se pousser à faire des choses différentes parce qu'il y a toutes ces petites règles. Moi, j'ai eu quelqu'un qui a commenté sur un vidéo à moi que Bella fait des signaux d'apaisement. Ça m'a un peu... Oui, je vois très bien qu'elle fait et ça communique et c'est normal. Et ouais. En fait, un chien qu'on est en train de interagir avec, ça ne va jamais être 100% positif. Et à la fois, tu peux très bien penser que c'est des signaux d'apaisement, on va dire. Et en fait, pas du tout.
Mais oui, oui.
Ouais. Souvent, un léchage de trouffe, ça peut être mille choses et pas un signe d'apaisement. Donc, je trouve que ce qu'on voit dans les réseaux, des fois, on est vite dans ce côté de ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bien.
Et ouais, ça peut beaucoup de créer.
Ouais, il y a beaucoup de jugements. Mais bon, il faut juste se rappeler de ce que tu fais.
Ouais.
Notre métier, il est très. Je pense qu'il aide beaucoup de gens. Et il ne faut pas oublier qu'on n'est pas en train de maltraiter des chiens. On n'est pas... Il ne faut pas oublier qu'en fait, on essaye de faire notre mieux et l'échec, ça fait partie de ça. C'est
ouais,
comme ça.
Ouais, ouais. Oui, et puis voilà, ce qui compte, c'est le retour à un état émotionnel bien, à un état émotionnel normal et calme. Mm. Et effectivement, le but, surtout quand on parle de réactivité, cet objectif de zéro déclenchement, je sais qu'il, moi, il m'a été, mais d'un... d'une lourdeur incroyable au début de ma pratique. Enfin voilà, c'est et puis même ça mettait même en question ce truc de est-ce que je prends des chiens réactifs ou pas du tout. Et en même temps, bah on nous appelle beaucoup pour ça. En fait, on va pas se mentir.
Le grognement pour moi c'était
ouais.
Et en fait,
alors que le grognement c'est une
communication. C'est un feedback, c'est une communication. C'est je me rappelle que waouh, quand Bella elle me grognait quand à chaque fois qu'on faisait des exercices et tout ça, j'étais là waouh, quel échec, je me prenais genre hyper dur. Et en fait je me rappelle, moi j'avais une pro qui m'a aidée au début justement parce que le côté émotionnel de travailler avec son chien, c'est dur. J'ai eu une personne qui m'a dit t'es incapable de travailler avec ton chien et t'es professionnel, et ça fait mal, ça fait très mal parce que c'est quelque chose que c'est dur quand tu fais ça. Mais heureusement, j'ai toujours su que c'est très bien de faire ce qu'on fait et de chercher de l'aide parce qu'on se connaît et on sait très bien ce qu'on est, nos limites. Et donc, à l'époque, je cherchais quelqu'un pour m'aider avec Bella et elle me disait « Camilla, c'est de la communication. Tant mieux qu'elle te grogne.
Mmh, » mmh.
Et à l'époque, on avait moins d'infos. Et voilà, donc voilà, c'était dur pour moi de ce moment-là. Et c'est les pressions qu'on met un peu, voilà, cette histoire de...
Sur le sans échec.
Ouais, sans échec.
Ouais,
voilà. Et qu'est-ce que c'est un échec, hein? Parce que c'est pas un échec. En fait, c'est de la communication, donc ça fait partie de... Ça te donne une info, ça te permet de faire différemment, et c'est pas très grave.
Ouais,
donc ça nous permet de nous améliorer.
Top. On peut passer à la partie conseil.
Ouais.
Qu'est-ce que tu conseillerais à des humains qui viennent d'avoir un chien, qu'ils soient chiots ou pas, comme premiers apprentissages à mettre en place? C'est quoi un peu, toi, les premiers trucs que tu entraînes?
Que j'entraîne?
Ou que tu conseilles de mettre en place?
Honnêtement, d'abord, on va souffler un bon coup, parce qu'avoir un chiot, c'est chaud, hein. C'est pas simple. Donc, c'est très fatigant.
Oui.
Je prendrai les choses, une chose à la fois. Un bon professionnel à côté de toi que prend aussi en considération la fatigue que tu vas avoir. Tous ces sortir ton chien à chaque 2 heures, c'est dur. Et même, des fois, j'ai dit, écoute, si c'est pas grave pour toi que ton chien prend un peu plus de temps pour apprendre la propreté, moi, je sais très bien que moi, je ne voulais pas me réveiller au milieu de la nuit. Donc, je me suis dit, oui, ça va pousser l'apprentissage un peu plus loin, mais je ne veux pas compromettre mon sommeil. Je voulais bien dormir. Et donc, voilà. Qu'est-ce que toi, tu veux, en fait? Moi, je dis souvent à mes clients, mais qu'est-ce que c'est important pour toi, pour ta vie de tous les jours? Est-ce que c'est une très, très, très haute priorité que ton chien soit propre vite? OK, le chemin, il est un peu douloureux. Hein, donc, on peut y aller, hein, mais ça va être comme ça. Donc, honnêtement, au début, c'est souffler un bon coup, prendre les choses petit à petit. Il y a énormément, même pour nous professionnels, quand on prend un cas de chiot, on est un peu perdu parce qu'il y a tellement beaucoup de choses. Je me rappelle en début de Cami Dogs, c'est dur au début avec les chiots parce que y a, tu te dis waouh, il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc qu'est-ce qu'on va prioriser? Qu'est-ce qu'on va faire d'abord? Et aller par étapes. Honnêtement, déjà tout ce qui est l'environnement, genre tout, sécuriser ton environnement pour que ça soit un environnement où ton chiot il peut vivre tranquillement. Savoir quelles sont les règles de ta maison. Pas les règles qu'on a entendues, là, je ne sais pas qui
ce qu'il faut faire,
dit,
pas faire,
voilà.
etc. Non.
Les règles de ta maison. Ouais. Est-ce que pour toi, tu aimes bien regarder un Netflix avec ton chien à côté sous le canapé? Ok, donc laisse ton chien monter sur le canapé. Il y a des fois, les clients, ils me disent « Ah, oh, mais il monte sous le canapé, c'est pas bien et tout. » Je dis « Écoute, tu aimes bien regarder un film avec ton chien à côté ?» Oui, j'aime bien. Ah bah voilà, donc honnêtement, on n'interdit pas le canapé. Après, je comprends, il y a des très beaux canapés et tout, tu peux mettre un plaid. Bon, moi, je suis un peu lâche-prise sur tout ce qui est saleté. J'ai un golden quand même, donc c'est, si tu fais pas ça, tu paniques.
Tu brilles.
Ouais, c'est ça. Donc non, honnêtement, on se concentrait plus sur le côté émotionnel, tout ce qui est rencontre. En fait, honnêtement, moi, j'ai travaillé avec Bella comme si elle était réactive à tout quand elle était petite. Et je trouve que quand tu fais ça, sans faire exprès, tu fais un super bon travail
de prévention.
Voilà, de prévention, ouais. Exactement. Ouais. En fait, je faisais la socialisation, pour moi, c'était la priorité. Ouais. Parce qu'on parlait beaucoup au Brésil. Pour le moment, je n'entendais pas forcément, je n'étais pas dans le côté éducation canine en France. Et au Brésil, on parlait beaucoup de ça. Et c'est là où je me suis mis direct. Donc, vraiment, c'était comme si Bella, elle était réactive à tout. Les poubelles, les motos, les bruits et tout ça. Et en fait, je mettais en place ça. Et ça m'a beaucoup aidée de plus me concentrer. Je pense que Bella, elle a appris à s'asseoir assez tard. Parce que, bon, pour s'amuser, mais ce n'était pas une priorité pour moi. Hein. Ouais. La priorité, c'était, bon, rappel et tout ça. Tout ce qui est, surtout le côté sécurité.
Ouais, c'est
la
ça.
Partie sécurisant et le côté sympa pour nous. Donc, pouvoir marcher avec son chien un peu. Genre qu'elle ne te arrache pas le bras. Et ouais, mais se concentrer plus sur le côté émotionnel parce qu'au long terme, c'est ce qui va vraiment être le plus payant, on va dire. Les apprentissages assis, couchés, ce genre de choses, tu fais ça quand tu veux. Mais le côté émotionnel, plus tôt tu fais, plus rapidement tu as des bonnes choses qui sont déjà ancrées pour la vie. Hein.
Ouais,
un chien qui t'a bien fait la partie émotionnelle à l'âge adulte, tu vois bien le résultat.
La connexion, la connexion, la gestion des émotions. Non, c'est clair.
Tout ce qui est interaction, en fait. C'est tout ce qui est interaction.
Beaucoup comme ça que j'ai fait aussi avec Suban et... Effectivement,
Elle est bien, là. Regarde, elle est couchée dans le canapé, là, toute comme un pancake.
Elle est deux, là. Waouh. Ok, top. Toi, tu as la particularité de proposer des prestations un peu atypiques en tant que consultante en comportement canin. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Oui. En fait, là, je vais lancer un programme... Ok, vous allez me trouver un peu folle, mais je vais lancer un programme pour des chiens réactifs. Je vais vous expliquer. Réactifs, voilà, merci. En gros, c'est un collectif, c'est un programme pour préparer les propriétaires gardiens des chiens réactifs à pouvoir avoir un peu plus de moyens de vie, vivre sa vie, plus son... on va dire tranquillité, parce qu'avoir un chien réactif, c'est pas simple. Et donc, du coup, c'est un programme de 6 semaines où il aura des séances sans chien et des séances avec chien dans un environnement très contrôlé, très grand, et chaque chien va avoir sa petite station. Donc, en fait, il y a plein d'apprentissages. Pendant un bon moment, les chiens, ils se retrouvent pas. Bien évidemment, c'est pour des cas où... la réactivité, elle ne déclenche pas super loin. Donc, c'est moi, en fait, qui va sélectionner un peu les élèves adaptés à ce genre de programme. Mais le but, c'est vraiment travailler tout ce qui est... commencer par une théorie, travailler un peu les mécaniques et gestion de tout ce qui est la laisse, la longe, récompense, tout ce qui est comportement de quotidien qu'on peut utiliser pour aider le chien à mieux vivre dans son quotidien, surtout en ville. Et l'idée, c'est de vraiment aider les gens à partager avec d'autres personnes, à rencontrer d'autres personnes qui ont des difficultés. Surtout parce que quand on a un chien actif, c'est dur. On est vite très isolé. Mmh. Et ça, voilà, je lance. C'est inspiré par Emma Parsons de Click to Calm et Leslie McDavid. Donc, je mélangeais un petit peu. C'est quelque chose que ça se fait déjà. C'est des petits groupes. Donc, des groupes de 4 élèves. Moi, je ne me voyais pas faire plus que ça. On fait d'abord, dans un premier temps, un bilan, consulte avec le veto pour voir si tout est OK. Et après, bon, il y a toutes les mesures de sécurité et blablabla. Mais si vous êtes intéressé, sur mon site, il y a plus d'infos. Et aussi, vous pouvez toujours venir me parler sur @camidogsfr. Ouais. Donc c'est un programme, pour,
un programme spécialisé.
Pour des chiens, pour des humains surtout, parce que c'est une préparation très avec les humains et un peu de désensibilisation avec les chiens, mais c'est surtout une préparation avec tout ce qui est gestion et tout ça. Donc c'est pour les gens qui veulent vraiment s'engager et qui veulent avoir un peu plus de tranquillité pour leur quotidien, avoir d'autres options, des exercices, quelque chose un peu plus motivant, de voir d'autres personnes.
De gagner en compétences par rapport à ça.
Exactement, comprendre un peu plus la théorie aussi, les mécaniques, tout ce qui est gestion et tout ça. Et donc j'ai uni un peu mon côté training et tout ce qui est connaissance sur la partie comportement. Et voilà, donc je propose ce programme à partir d'avril.
Ouais.
Et voilà, l'idée aussi, c'est de pouvoir aussi faire des petits ateliers à Lyon, sur place, dans un endroit, un local. Et des ateliers clicker training, parce que bon, Karen Prior, c'est quand même le truc du clicker training. Toute ma formation, elle était à fond sur ça. Donc, de proposer de tout ce qui est partie clicker training, jeu de rapport, des petits ateliers de genre 1 heure, 2 heures, avec des pros ou pas pros. Hein. C'est ouvert à les personnes qui souhaitent s'amuser avec leur chien et passer un bon moment.
Ouais.
Et petit à petit, je vais mettre toutes les infos sur mon Insta.
Ok, trop cool. L'école des chiots, tu peux en parler?
Et donc, du coup, pour continuer sur le côté collectif, pour les chiots, maintenant, c'est pas forcément l'école du chiot, mais je partage entre débutants et intermédiaires.
Ouais.
Pour justement, parce que des fois, t'as un chiot qui a, je sais pas, 7 mois, mais t'as pas fait aucun apprentissage. Donc l'idée, c'est de partager un peu sur le côté débutant et intermédiaire. Et pour les chiots, je vais plus faire du collectif le week-end. Et voilà, donc à Lyon, Saint-Genis-Laval, c'est le local. Et là, on va à fond dans tout ce qui est atelier, collectif, parce que c'est ce que j'aime faire. Et je vois que ça, les gens, ils s'amusent bien et c'est sympa.
Ouais, ok. Et puis, on a des bonnes progressions aussi.
Oui, carrément. De ça. Carrément.
Ouais.
Très. Pour les chiots, pour moi, c'est vraiment le collectif. Je trouve qu'il y a un côté... le progrès, il est rapide.
Ouais.
Et en fait, tu mets en place des apprentissages où les gens, des fois, ils ne vont pas avoir forcément l'opportunité. Et après, ça passe beaucoup de temps où à chaque fois que tu rencontres un chien, c'est dans la rue. Ça tire pour aller vers le chiot. Toi, tu as envie de faire un peu les connaissances parce que bon, t'as un chiot et tu as envie qu'il voit d'autres chiens. Et c'est dur d'avoir cette opportunité d'avoir tous dans le même endroit et que ça soit un peu carré.
Donc, c'est supervisé. Genre,
voilà, supervisé. Donc, c'est sympa.
Ouais, carrément. Beaucoup. Ouais. Je ferai un épisode bientôt sur mon retour sur l'école du chiot et tout ce que ça apporte.
Ouais,
Je pense qu'il y a beaucoup à dire là-dessus.
Carrément.
On n'est pas beaucoup à le faire.
Ouais, exact. Ouais.
Ok, trop cool. Est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais partager sur le sujet de l'entraînement ou pas?
Honnêtement, j'aime beaucoup tout ce qu'il y a sur le site de KPA, j'aime bien. Après, j'avoue... je partage pas forcément de ressources parce que souvent je vais regarder en anglais et je trouve que des fois ça peut bloquer un peu les gens et dire ah, dommage, j'arrive pas à parler anglais. Donc et sinon Museau Plus, honnêtement j'aime bien, il y a beaucoup d'informations là-dessus. Aujourd'hui je pense que des plateformes que en français qu'il y a des très bonnes ressources et très bons professionnels, c'est Museau Plus.
Ok, top. À qu'est-ce que tu aimerais entendre au micro de la niche aventure?
Qu'est-ce que j'aimerais entendre?
À qui tu passerais le micro?
Je passerais le micro à Lola Comportement, J'aime beaucoup son contenu. J'aime beaucoup sa façon de travailler. Et je pense qu'elle a... C'est quelqu'un qui pourrait apporter beaucoup à ton podcast aussi, parce que ça serait intéressant de l'écouter.
Ok, trop bien. Je note. Trop cool. Bon, bah super. Et du coup, pour finir, où est-ce qu'on peut rediriger les auditeurs qui souhaiteraient découvrir ton travail, peut-être te yes. découvrir, te suivre, etc.
Sur Insta, ouais. CamiDogsFR, et sur mon site. J'utilise pas trop Facebook, j'avoue, je le laisse un peu abandonné.
Ouais.
Mais Insta, honnêtement, c'est ce que j'utilise le plus, des fois trop. Mais bon, j'aime bien. Et bon, voilà. Et ouais, sur Insta, vous pouvez me trouver facilement CamiDogsFR et sur mon site internet CamiDogs.fr.
Ok, trop cool.
Bon, c'était un plaisir.
Top. Bah ouais, c'était trop bien. Ouais.
Et si tu veux une autre fois, je peux revenir. Hein. T'inquiète, maintenant j'ai bien aimé. Hein.
Tu maîtrises, c'est bon.
Je maîtrise.
Trop cool. Ouais, grand plaisir. On trouvera ça.
Très bien. Toujours. Merci Claire.
Trop cool. Merci beaucoup Camilla. À bientôt.
À bientôt.
Merci beaucoup de vous être joint à ma conversation avec Camilla et de l'avoir écoutée jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant @camidogsfr et @lanicheaventure. Pour enrichir votre écoute, ne rien rater des prochaines sorties et pourquoi pas vous faire accompagner dans l'éducation de votre chien, n'hésitez pas à visiter mon site, à vous abonner à la newsletter et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin d'eux. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine !